Comment allez-vous? Hâte de rentrer chez vous? On est déjà chez nous. On est arrivé. Bienvenue à cette dernière journée de pleine conscience, à cette dernière journée de notre retraite libre et léger. Nous sommes le 6 mai 2012, à la Villa Saint-Martin. Il me reste à peu près une heure avec vous. Et je ne sais pas comment faire du mieux qu'on peut ensemble en une heure. Le thème de cette retraite est un thème qui est très important. Et il n'a pas été mis là par hasard. Il fait partie d'un programme que nous avons commencé à suivre depuis le début de l'année. Et comme je vous l'ai mentionné hier, cette année, nous nous sommes donnés comme étude le sutra Satipatthana, c'est-à-dire les quatre fondements, les quatre établissements de la pleine conscience. Et à chaque mois, nous avons offert une journée de pleine conscience à l'Institut de pleine conscience appliquée de Montréal. Et à chaque mois, nous avons étudié un thème particulier de ce grand sutra. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à l'avant-dernière session. Et la dernière aura lieu au mois de juin. Et c'est pour ça que libre et léger, c'est le résultat que nous nous sommes donné après nos 8 mois d'études ensemble. Alors les amis qui nous ont suivis depuis les 8 derniers mois sont aujourd'hui libres et légers. Ou c'est ce qu'on souhaitait, ou c'est ce qu'on a espéré. Nous n'étions pas les seuls à suivre ce programme. Parce qu'à chaque mois, les samedis qui précédaient nos journées de pleine conscience, je donnais le même enseignement en anglais sur Internet. Et il y avait entre 12 et 16 sanghas aux États-Unis qui étaient connectés pour nous recevoir dans chacune de leurs sanghas. Et chacune de ces sanghas organisait aussi une journée de pleine conscience pour recevoir l'enseignement. Quand j'avais la chance d'être dans une de ces sanghas, je le faisais à partir de la sangha où j'étais présent. Alors aujourd'hui, si on était en anglais, cette caméra serait ouverte. Il y aurait d'autres personnes qui seraient connectées dessus pour nous suivre. Alors cet enseignement, cette année, a été suivi par plusieurs personnes dans plusieurs sanghas. Et ça m'a beaucoup nourri. Ça me nourrit parce que on pratique ce qu'on enseigne et on enseigne ce qu'on veut pratiquer. Alors, quand j'ai la chance de pouvoir donner le même enseignement 2 fois à chaque mois, ça me permet de pouvoir me le rappeler à moi-même 2 fois par mois. Et donc, je suis très reconnaissant à tous les amis qui nous ont permis de rendre ce programme possible. Il y a eu beaucoup de matière. Mais l'enseignement n'est pas dans la matière. L'enseignement n'est pas dans les paroles que je dis. L'enseignement qui était le plus remarquable, où les effets ne sont pas les discours, mais les organisations qui les ont soutenus. Alors, lorsque des amis organisent une journée de pleine conscience dans une petite ville quelque part dans la campagne aux États-Unis, Ça leur donne la chance de pouvoir se mobiliser et de pouvoir se regrouper et d'être un groupe d'amis autour d'un écran de télévision pour pouvoir écouter un enseignement et pour pouvoir pratiquer ensemble. Et à chaque mois, avant la diffusion de l'enseignement, les sanghas se rassemblent avant la semaine précédente pour lire les enseignements qui seront donnés la semaine suivante. Et c'est Lily qui m'a aidé à les documenter et à les leur envoyer. Alors la semaine qui précède la diffusion, ils ont déjà la chance de se réunir et de travailler ensemble, de discuter sur les textes qui vont faire l'objet de l'enseignement. Et l'enseignement ne dure pas longtemps. Il dure seulement 45 minutes. Mais il est donné en travers de 4 fuseaux horaires. Alors c'est pour ça que les heures sont un peu difficiles. Ça couvre les 4 fuseaux horaires de l'Amérique du Nord. La partie la plus inspirante, c'est que lorsqu'on ouvre notre écran de télévision, on peut voir toutes les 16 sanghas qui sont là. Et chacune se présente et dit « Hello, hello !» Et ça crée une communauté virtuelle, très interreliée. Et lorsqu'ils ont la chance de pouvoir voir les autres sanghas, ça les inspire. Ils disent, oh, je veux aller là-bas pour vous voir. Et donc, dans toutes mes retraites aux États-Unis, il y a beaucoup de monde, des autres sanghas, qui viennent pour supporter et pour apprendre. Et ça s'appelle une inter-germination, inter-cross-pollinating. Et je suis très, très heureux d'être au centre de ce projet. Et je suis surtout fier de pouvoir partager cet enseignement qui nous provient d'ici même de Montréal. Alors c'est pour vous informer que nous sommes au centre de ce réseau. Et c'est un réseau qui est très élargi. Et l'année prochaine, quand nous allons le reprendre en septembre, il y aura le Mexique et Singapour qui vont être dedans aussi. Je suis très heureux d'avoir nos nouveaux amis avec nous. Je vais prendre un peu de temps pour nous mettre au diapason et pour vous faire les... un résumé des 8 sessions en 3 minutes. Hier, je vous avais mentionné qu'on avait commencé la série avec les 5 obstacles. Je vous avais parlé du désir, de l'attraction et de l'aversion comme étant le premier obstacle. Gilles nous a mentionné hier le 5e, qui est le doute. Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin d'apprendre les 5, mais se concentrer sur une chose, le désir et l'aversion. Regardez comment nous nous comportons vis-à-vis de cet obstacle. J'avais mentionné que les obstacles sont ces choses-là qui nous empêchent de pouvoir pratiquer. Et j'avais également mentionné que ces obstacles sont également la cause de nos souffrances. Alors ce sont des causes que nous voulons enlever pour moins souffrir, et ce sont ces mêmes causes-là qui nous empêchent de pratiquer. Et c'est ça qui rend cette pratique si difficile. Nous devons traverser des obstacles, que nous voulons réduire ou améliorer, si nous pouvons pratiquer. Alors ces choses-là même qui nous empêchent de pratiquer sont ces choses-là que nous voulons enlever. Nous avons aussi pratiqué, donc c'était la première session, et je nous invite à le regarder, à considérer, pour voir comment ce désir, ou cette aversion, ou cette attraction, comment elle est à la cause de tous nos malheurs. Nous avons ensuite parlé des principes de la pratique, les principes que nous devons, que nous voulons nous souvenir pendant que nous allons étudier et pratiquer cet enseignement. La chose que je considère que nous devons nous rappeler de cette deuxième session, c'est la non-discrimination, et qui est encore un autre aspect de cet obstacle dont nous parlions. J'aime, je veux l'avoir, j'aime, je le garde, j'aime, je m'y agrippe, je n'en veux pas, j'essaie de m'en défaire. Et parmi les souffrances, c'est ne pas pouvoir obtenir ce qu'on désire, ou de devoir être collé avec ce qu'on ne veut pas. Et c'est une grosse source de souffrance. La façon de le faire, c'est d'embrasser cela et de devenir un avec ce que nous n'aimons pas, tout comme ce que nous aimons. Et c'est la pratique de la non-discrimination. Et la pratique de la non-discrimination est très importante, parce que il faut commencer par accepter pour pouvoir transformer. Il faut enlever toutes les tensions qu'il peut y avoir, autant par le désir et l'attraction que pour l'aversion. Accepter, embrasser pour transformer. Et c'est le principe avec lequel nous devons pratiquer pour pouvoir nous transformer. Nous avions observé le phénomène de la boue et du lotus. Et on peut résumer cette deuxième session, la non-discrimination, avec l'image du lotus. Et lotus ne peut pas fleurir et s'épanouir sur une dalle de marbre, même si elle vient de l'Italie. Un lotus ne peut être fort et donner de belles fleurs lorsqu'elle fleurit dans un étang de boue. Et plus la boue est putréfiante, et plus les fleurs seront belles. Et il en est de même pour nos souffrances. Plus nos souffrances sont aiguës, et meilleur va être le fruit de la transformation. Et plus la nuit est noire, sombre, et plus la lumière peut briller et éclairer. Nous sommes ensuite tombés dans l'étude du premier établissement, du premier des quatre établissements de pleine conscience, qui est l'observation du corps, dans le corps. Nous avons pratiqué, appris la respiration consciente. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire une courte inspiration. Je sais que mon expiration est courte. Nous mettons notre attention sur notre inspiration, sur notre expiration. Nous l'observons, sa longueur, sa lenteur, et nous restons avec la respiration. Nous devenons la respiration et nous pénétrons dans notre corps. Avec notre inspiration, et nous envoyons notre esprit à chaque partie de notre corps, avec l'air qui pénètre et qui amène et qui transporte notre esprit. Nous pouvons, avec notre esprit qui pénètre notre corps, l'envoyer dans chaque partie de notre corps pour pouvoir retourner, pour pouvoir permettre à chaque partie de notre corps de pouvoir se manifester, de pouvoir nous raconter notre propre vie, d'où nous venons, de quoi nous sommes en train de souffrir. Et lorsque nous pratiquons la respiration consciente, lorsque nous mettons notre esprit dans notre respiration, et lorsque nous envoyons notre esprit visiter chaque partie de notre corps, nous faisons quelque chose qui est merveilleux. Nous pouvons relâcher notre corps et le calmer. Et c'est pour ça que la pratique de l'observation du corps dans le corps nous permet de pouvoir déceler les choses qui ne vont pas bien dans notre corps. Parce que notre corps est là et notre corps a été abusé. Nous avons abusé de notre corps, nous l'avons surutilisé, nous lui demandons de se taire pour pouvoir accomplir l'objet de nos désirs sans jamais tenir compte de ce qui est notre bien le plus précieux, notre propre corps. Et lorsque nous exposons notre corps, lorsque nous le poussons à faire des choses comme cela, notre corps a la capacité de pouvoir recevoir, accumuler et supporter. Et notre corps a cette grande générosité de tout prendre sur elle, sur lui, sans jamais se plaindre. Mais notre corps, comme notre petit corps, comme notre plus grand corps, c'est-à-dire la planète Terre, a des limites. Et lorsque nous abusons de ces ressources, notre corps devient malade. Et de la même façon que nous abusons de notre corps, nous abusons de notre mère et de la terre. Et la terre est aussi malade. Et lorsque nous observons, nous pratiquons l'observation du corps dans le corps, lorsque nous pratiquons la respiration consciente, lorsque nous pratiquons la pleine conscience de nos mouvements, la pleine conscience de nos actions, la pleine conscience de chaque partie de notre corps, nous pouvons apprendre toutes ces leçons que notre corps peut nous apprendre. Et nous apercevons que notre corps n'est pas séparé, n'est pas indépendant de tout ce qu'il y a autour et de tout ce qui est. Et que la terre fait partie de notre corps. Et que cette terre, cette belle terre qui est notre mère, fait partie aussi de ce corps. Et comme vous l'aviez appris ou comme vous le savez, nous allons retourner à la terre et nous provenons de la terre. Et cette méditation, cette observation du corps dans le corps, peut nous permettre de réaliser cette réalité, de pouvoir voir comment nous sommes interreliés, interconnectés, et que nous ne sommes pas séparés de la terre. Et que la terre qui est en train de mourir et qui souffre tant n'est qu'un symptôme, n'est qu'une manifestation de ce que nous avons fait et de ce que nous continuons de faire nous-mêmes dans notre propre corps. Nous pratiquons les sept miracles de la pleine conscience, où la pleine conscience peut se manifester en travers de sept miracles, et ces sept miracles peuvent déjà se manifester lorsque nous pratiquons avec le premier fondement, avec la première base, le corps dans le corps. Nous pratiquons la respiration consciente, c'est-à-dire nous nous arrêtons. Et lorsque nous nous arrêtons et que nous mettons notre attention avec notre respiration, nous nous calmons. Nous calmons la respiration qui peut débuter courte et saccadée va s'apaiser et s'allonger. Et nous allons nous calmer. Lorsque nous nous calmons, nous pouvons déjà profiter de ce miracle du calme qui repose. Et lorsque nous nous reposons, lorsque nous sommes calmes, il y a un processus de guérison qui commence déjà. Et c'est un processus qui est très, très merveilleux. miraculeux. Dans un des enseignements, dans un des discours de Thaï, il nous a donné l'exemple d'un loup. Un loup qui était pris dans une trappe. Et lorsqu'un loup est pris dans une trappe, il ne reste pas pris dans la trappe, mais il va essayer de s'en défaire. Et après avoir tout essayé, en dernier recours, il va s'amputer. Et il va fuir la trappe en laissant sa jambe, une de ses jambes-là. Et il ne va pas à l'hôpital, il ne va pas à l'urgence, il ne va pas voir un médecin. Tout ce que le loup peut faire, c'est de se cacher dans une tanière. Et une fois qu'il est caché dans sa tanière, le loup arrête toutes les activités. Il ne fait plus rien. Il est à l'arrêt, il ralentit son métabolisme, il reste là. Et quelques mois après, sa plaie se cicatrise, il a perdu un peu de poids, quelques poils, il ressort avec trois pattes, mais il survit. Et cette capacité de guérison que notre corps a, ou que le corps du loup a, nous l'avions aussi. Mais nous l'avons perdu parce que nous avons donné ce pouvoir aux autres. Nous avons confié ce pouvoir à la science et aux médecins et aux pharmacies. Et malheureusement, les compagnies pharmaceutiques ne sont pas là pour nous guérir, mais pour faire de l'argent. Et je suis très content de voir qu'une jeune génération de médecins ont très bien compris cela et cherchent des moyens, cherchent des traitements qui impliquent leurs patients dans la guérison. Et cette alliance patient-thérapeute où on donne le pouvoir aux patients peut être une voie qui permet aux patients de pouvoir pratiquer cette observation du corps dans le corps, revenir dans le corps, demander au corps c'est quoi qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, pour comprendre que peut-être c'est par notre façon de vivre que nous l'avons et que en conversation, en consultation avec notre corps et avec l'appui de notre thérapeute, de notre médecin, pouvoir avoir un traitement qui sollicite et qui favorise ce pouvoir de guérison que nous avons à l'intérieur de nous et qui peut aider dans les traitements, qui peut aider avec les médicaments. Et je pense que c'est une voie où je vois beaucoup d'espoir. Et c'est mon espoir que ça se développe davantage. Parce que hier, je vous ai parlé du Vietnam. Et il y a un manque critique de médicaments. Alors, il y a un peu de médicaments et les surplus que nous pouvons... que nous pourrons générer si nous faisons mieux, si nous guérissons mieux, pourrait peut-être servir dans d'autres places où les besoins sont immenses. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer mon ami en arrière et il m'a parlé de son travail au Vietnam, à Hoi An. Il a été bénévole pendant 2 mois dans une clinique qui traite les victimes de l'agent orange. Et il pourra vous en parler, comment le personnel manque, mais ici aussi dans nos hôpitaux. Mais peut-être que ce sont nos processus qui sont trop compliqués et qui demandent plus d'heures ou de travail que nécessaire. Et si on n'utilisent le temps de nos médecins pour remplir des papiers ou des rapports. Il ne faut pas s'étonner qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des patients comme ils devraient, comme ils voudraient. Alors, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, on est bien. Je m'excuse pour la parenthèse que j'ai prise, mais pour revenir à l'observation du corps dans le corps, c'est de rétablir une communication entre notre esprit et notre corps, afin que les deux deviennent un, que les deux s'entendent comme il faut. Parce que nous vivons seulement avec notre esprit et avec notre tête, et nous utilisons notre corps comme un instrument. Et en anglais, ils l'appellent disembodied, c'est-à-dire body, c'est notre corps, disembodied, c'est une âme sans corps, ou bien désincarné. D'accord. Et c'est triste de se regarder dans un miroir et de voir un désincarné. Alors qu'on peut être beaucoup mieux comme une personne entière et complète. Et c'est ça la pratique de la pleine conscience, l'unicité du corps et de l'esprit, devenir une personne, corps et esprit ensemble, unis. Alors donc, le premier établissement, le corps dans le corps, est un domaine infini. Est une pratique que nous pouvons passer des vies et des vies à observer. Et juste avec cela, nous n'avons besoin de rien d'autre pour pouvoir atteindre la libération parfaite. Quatrième session. Je l'ai donnée à partir de Montréal, 2 heures après avoir appris que mon père venait de décéder. Je l'ai quand même fait. Il suffit juste de respirer, de retourner à l'instant présent et de se concentrer. Ne pas se laisser emporter par les nuages, par les idées. Et c'est faisable. Alors j'ai donné mon enseignement de mon bureau à l'Institut. Et c'est une question qui répond à... Non, c'est un enseignement qui aurait bien répondu à votre question. Comment faire pour pratiquer l'arrêt et le corps? Nous pratiquons la pleine conscience du corps dans le corps, et la pratique du corps dans le corps est une pratique très village des pruniers. Nous pratiquons la respiration consciente, nous pratiquons la marche consciente, et nous pratiquons la pleine conscience dans toutes nos activités. Alors nous pratiquons lorsque nous sommes assis, nous pratiquons lorsque nous marchons, nous pratiquons lorsque nous sommes allongés, et pendant tout ce temps, durant toutes ces actions, nous maintenons notre pleine conscience éveillée, en contact avec notre corps et avec tout ce qui est en train de se passer. Je suis assis, je sais que je suis assis, je vais me lever, je suis conscient que je suis en train de me lever. Je fais un pas, je suis conscient de mes pas, et ainsi de suite. Donc, la pratique de l'observation du corps dans le corps, c'est une pratique qui est très village des pruniers. Et la pratique village des pruniers comporte 3 caractéristiques que je voudrais vous partager aussi. Le moment présent. Vous souvenez-vous, on avait dit qu'on pratique... dans l'instant. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de notre vie. Et ça s'appelle la fête, c'est une fête. La fête du jour de ce jour. Vous connaissez cette fête? Alors le jour de ce jour se passe à chaque instant. Et le jour de ce jour, à chaque instant, il y a le beau journal et les nouvelles que nous recevons. Avec le beau poème que nous nous sommes lus hier. Alors donc, la première caractéristique de notre enseignement, c'est que nous pratiquons le retour à l'instant présent, au seul instant qui nous est disponible, au seul instant où nous sommes. Nous pouvons être vivants. être vivant et en être conscient, et en être heureux, et s'en réjouir, et s'en nourrir, se nourrir de cette joie d'être vivant ici et maintenant. Respirez, vous êtes vivant. Qu'attendez-vous pour respirer? Faites-le tant que vous pouvez, et vous le pouvez encore parce que vous êtes vivant. Parce que lorsque vous ne serez plus vivante, vous ne pourrez plus le faire. Faites-le maintenant. Réjouissez-vous, soyez heureux. L'instant présent. Et c'est dans un sutra qui s'appelle « La meilleure façon de vivre seul ». Et ça se trouve dans le livre « La respiration essentielle ». Mais lorsque cet instant est fini, il y a un autre instant qui commence. Et nous voulons faire de chaque instant un instant de pratique. Alors cet instant, pour ne pas qu'il s'achève, nous pratiquons de façon continue. Nous n'arrêtons jamais de pratiquer. Nous pratiquons lorsque nous marchons, nous pratiquons lorsque nous mangeons, nous pratiquons à chaque instant. Et pour nous permettre de le faire, mon maître a inventé beaucoup de petits poèmes pour nous le rappeler. Et ça s'appelle des gathas. Alors le matin, lorsque nous nous levons, nous récitons un merveilleux gatha. Je m'éveille ce matin en souriant. Qui s'est levé en souriant ce matin? Alors donc, je m'éveille en souriant pour accueillir 24 heures toutes nouvelles, 24 heures qui commencent, 24 heures avec lesquelles je peux faire tout ce que je veux, parce que je suis libre et léger, et je sais que je peux faire de chaque heure, de chaque minute, de chaque respiration, un instant de bonheur. Parce que je sais pratiquer la respiration consciente et que la quatrième respiration, c'est la respiration qui génère la joie. Et il nous suffit de revenir à notre respiration. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Et la joie est là. Donc, chaque instant de ces 24 heures, je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience. Parce que si je ne suis pas dans la pleine conscience, je ne suis pas vivante. Et cette heure, cette minute, ce temps, ce moment, cette journée va encore passer. En vain. In vain, en vain. Ce n'est pas le vin que tu bois. Ça peut rendre la joie plus facile. Et lorsque je vis dans la pleine conscience, il se passe quelque chose de merveilleux. Je vois la souffrance. Mais comme je suis libre et léger, je ne me laisse pas entraîner dans la souffrance, mais je la regarde et j'en suis conscient. Conscient de la souffrance. Cette souffrance et cette conscience va transformer et va donner quelque chose qui est merveilleux à l'intérieur de nous et qui s'appelle la compassion. Parce que s'il n'y a pas de souffrance, la compassion n'est pas possible. S'il n'y a pas de boue, il ne peut pas y avoir de lotus. Et c'est à partir de la souffrance, seulement à partir de la souffrance, que la compassion peut être. Et la compassion, c'est une composante de l'amour. Et lorsque nous sommes remplis d'amour, lorsque nous sommes pleins d'amour, nous pouvons voir le monde avec les yeux du Bodhisattva Avalokita. C'est-à-dire, nous pouvons voir le monde avec les yeux de la compassion. Et tout ce que nous allons voir va être teinté d'amour. Parce que l'amour est là. Mais parce que nous n'avons pas les yeux pour le voir. Parce que nous n'avons pas d'amour à l'intérieur de nous. Nous n'avons aucune chance de pouvoir le voir. Alors, avec cette pratique, nous savons que c'est possible. Et nous nous faisons le vœu de vivre dans la pleine conscience pour pouvoir générer cette énergie d'amour. Et c'est pour ça que le quatrième gatha, le quatrième vers de terre pour la pêche, se dit, je fais le vœu de regarder tout le monde avec les yeux de la compassion. Et c'est comme ça que nous nous pratiquons à nous lever le matin. Et lorsque nous pouvons nous lever de cette façon-là le matin, la qualité de notre journée vient de changer complètement. Une journée où nous nous levons dans l'anxiété, dans la peur. Qu'est-ce que mon boss va faire encore aujourd'hui? Est-ce qu'il va me donner cette lettre que je redoute tant, etc. Mais vous souvenez-vous de cette capacité que nous avons à toujours nous imaginer et prévoir le pire. C'est souvent ça qui nous attaque dès le matin. Alors la tendance de pouvoir renverser ça, c'est avec le gâteau du réveil. 24 heures toutes nouvelles, yes. C'est une pratique joyeuse. J'inspire, je souris. Et si je n'arrive pas encore à sourire, il faut me le rappeler. Et comment vous pouvez me le rappeler? Merci. Alors s'il vous plaît, rappelez-le-moi, j'ai besoin de votre aide. C'est une pratique très difficile pour moi. Parce qu'à 14 ans, j'ai eu un accident de motocyclette, puis je me suis cassé les dents. Et à 14 ans, rire peut montrer ses dents cassées, c'est pas ce qu'un garçon veut faire, n'est-ce pas? C'est une pratique collective. Et lorsque nous sourions, ça a un effet sur toutes les personnes qui nous voient sourire. Alors, c'est ça. C'est les trois caractéristiques de notre pratique. Nous pratiquons à chaque instant, nous pratiquons dans chaque instant et nous pratiquons pour l'instant même. Nous ne pratiquons pas pour aller au paradis quand on va mourir. Les effets, c'est tout de suite. Et si ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut se revoir notre pratique. Nous pratiquons à chaque instant et nous pratiquons dans la joie, pour la joie. Et hier, merci pour votre question, c'est en fonction du continu. Nous savons que c'est très difficile d'avoir une pratique continue. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'outils pour pouvoir nous le rappeler. Et nous pratiquons avec le son de la cloche. Et le son de la cloche nous fait nous arrêter, revenir à l'instant et revenir à cette pratique. Et lorsque nous pratiquons cette cloche de pleine conscience, nous pratiquons l'arrêt. Et hier, ce que Lily vous a dit, c'est qu'avec l'arrêt, ça nous permet de nous reposer. C'est ça. Et de nous calmer. Et avec le repos et le calme, ce matin, avec l'exemple du loup, je pense que ça va amener la guérison. Et lorsque nous pratiquons notre corps, c'est ceci que nous pratiquons. Et nous pratiquons pour nous détendre, nous pratiquons pour nous relaxer, nous pratiquons pour relâcher notre corps, etc. Et une fois qu'on a bien possédé ce processus, nous pouvons l'appliquer pour les autres fondements et les autres établissements qui suivent le corps et qui sont les sensations et les formations mentales. Les formations mentales, hier, on avait pris l'exemple de la colère. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Et nous suivons encore le même processus, l'arrêt. Et nous identifions ce que c'est. Nous pratiquons les sensations dans les sensations, les formations mentales dans les formations mentales. On devient un avec notre objet d'observation. Ça, c'est un autre principe. Et pour traiter ça, c'était le processus pour le corps. Pour le processus que nous appliquons et pour les sensations et les formations mentales, nous suivons l'arrêt. l'arrêt qui nous permet de pouvoir identifier, reconnaître. Et en anglais, c'est... Ok, en français, c'est la reconnaissance pure et simple. Et nous pouvons... une façon de le faire, c'est de l'appeler par ses vrais noms. Alors hier, Lily vous a donné les 51 formations mentales. Chacune de ces formations mentales a un nom. Et ces choses-là qui se manifestent en nous, c'est de pouvoir être là, arrêter, pour la voir se manifester. Une colère vient de débuter. Juste ça. Et c'est l'arrêt, identifier, reconnaître. Ah, je te reconnais. Colère. Et nous l'appelons par son vrai nom. Colère, c'est colère. Plus ça. Mais une fois qu'on l'a identifié et reconnu, parce qu'on est arrêté, Thay dit qu'on vient de confier notre colère sous la garde de notre pleine conscience. Parce que lorsque nous sommes arrêtés, ce que ça veut aussi dire, c'est que notre pleine conscience vient d'être activée. Et cette colère qui vient de se manifester a également une autre chose qui est en train de se manifester avec. Et c'est la pleine conscience qui est en train d'embrasser et de contenir... pardon. Quel que soit le mot. L'idée, c'est le deuxième principe de la pratique, c'est la non-violence. La pleine conscience qui est en nous, c'est nous. La colère qui est en nous, c'est nous aussi. Et nous ne voulons pas nous faire de violence. Nous ne voulons pas repousser, nous ne voulons pas tasser, nous ne voulons pas couper cette chose que nous venons d'identifier. Mais nous l'accueillons, nous lui tenons compagnie et nous restons avec. Et sous le parrainage de la pleine conscience, nous accompagnons cette colère du moment où on s'en aperçoit, préférablement du moment où elle a commencé, et nous l'accompagnons. Et nous savons que, comme tout autre phénomène, la colère est impermanente et qu'elle va s'en aller. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'accompagner et de mettre notre vigilance et notre attention avec et la suivre. Une fois que nous l'avons identifiée, reconnue, suivie et qu'elle est retournée à son état de dormance, elle a perdu un peu de son pouvoir et nous avons gagné un peu plus de pouvoir et de confiance. De confiance que ce n'est qu'un nuage et encore là, il ne nous a pas eu. Et on l'a observé juste passer. Et on s'en est sorti sans trop de dommages. Et lorsqu'il va encore se manifester, nous allons nous rappeler. Ah, je t'ai déjà eu une fois. Je vais encore le faire. Et les grands pratiquants s'amuse même à les inviter à monter. Lorsqu'ils n'ont rien à faire, ils invitent ces formations à monter pour pouvoir jouer avec. Et ça s'appelle Taming the Tiger. Dompter les tigres. Il y a un livre qui s'appelle Taming the Tiger. Très bon. Et nous avons tous des tics endormis en nous. Et ces tics qui des fois se manifestent de façon très violente et peuvent nous manger. Bien, un tigre bien dompté, docile. Et ça m'amène à vous parler d'une formation mentale qui est très sournoise. Hier, quand je vous ai parlé de la souris, c'est de ça que je voulais parler. Mais c'est une de nos... c'est la plus sournoise. Et c'est elle qui est à la base et qui pousse toutes les autres à se manifester. la colère, une manifestation de la peur. Ce désir, manifestation de la peur. Ce repoussage, c'est encore une manifestation de la peur. Alors lorsque nous nous arrêtons, nous identifions, nous reconnaissons, et Lily a dit comprendre. Plusieurs phénomènes, plusieurs manifestations différentes, une seule cause, la peur. Alors lorsque nous travaillons avec la colère, lorsque nous travaillons avec le désir, lorsque nous travaillons avec toutes ces choses-là, et tout pour identifier les différentes manifestations de cette chose-là qui s'appelle la peur originelle, la peur de mourir. Et c'est ça qui est en train de nous pousser à faire toutes les folies que nous faisons. Et je vous ai dit que les moines les apportent pour s'amuser avec. Ils citent les cinq contemplations, les cinq remémorations. Je suis de nature à vieillir. Je vais vieillir. Je suis de nature à être malade. Je suis mieux de connaître, d'avoir des numéros de bons médecins. Je suis de nature à mourir. Et je vais mourir. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Mais ça va arriver. Et c'est merveilleux de pouvoir pratiquer avec la mort. Parce que vous savez quoi? C'est quelque chose qui va nous arriver aussi. Je ne connais personne à qui ça ne va pas arriver. Et on est tous dans le même bateau. Ou dans le même train, ou dans la même voiture. C'est sinistre. Mon ordinateur est moins gentil que Monique. Vous savez, lorsqu'il m'arrive de pratiquer ce troisième des cinq remémorations, à quoi je pense des fois? À une image que mon maître nous a apprise ou nous a partagée. C'est l'histoire d'un poulailler qui sont en train de se battre pour quelques graines sans savoir qu'elles vont mourir dans 2 heures. Avez-vous vu ça? Pouvez-vous imaginer ça? Un ver de terre dans le poulailler. Pauvre ver de terre. Mais ver de terre sait qu'il va mourir. Il est en train de... Poulet, les poules, non. Voyez comment c'est beau, cette image. Je suis d'une nature à mourir. Et je suis comme ce poulet. Et c'est quoi que... Avec quoi, contre qui et pourquoi je suis en train de me battre? Le poulailler ne vous suffit pas? Non, j'arrête là parce que le poulailler, lui, ça... Makes my day. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Se réveiller avec l'image du poulailler, puis identifier quels sont les vers de terre après lesquels nous sommes, et quelle est cette graine pour laquelle nous voulons nous battre. La quatrième. Nous allons perdre ce vers de terre pour lequel nous nous sommes battus. Parce que quelqu'un va nous le piquer. Une poule plus forte ou bien un poulet plus fort va venir nous le prendre. Et on va être en maudit, on va se choquer, puis on va courir après pour pouvoir avoir notre bout de ver de terre. Tout ce que nous possédons, toutes les personnes qui nous sont chères aujourd'hui sont empreintes de cette réalité inéluctable de l'impermanence. Et tôt ou tard, nous allons devoir nous en départir. Dans ce ver de terre que nous avons pris au prix de notre vie et pour lequel nous avons tué, nous allons aussi le perdre. Mais le cinquième est beaucoup plus gentil. Je suis l'instigateur et l'héritier du produit de mes actions. De ce jour. Ce que je vais dire, ce que je vais faire, ce que je vais penser aujourd'hui sont les seules choses qui vont me rester, sont les seules choses qui vont me survivre, sont mon héritage, sont ma transmission. Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Tel le fruit de mes actions de ce jour. Est-ce que je veux avoir 2 vers de terre ou 3 graines? Est-ce que je vais, etc. Et c'est une bonne méditation. Et ça donne tout un sens à notre journée, parce qu'on est conscient de l'impermanence, parce qu'on sait c'est quoi les enjeux, et parce qu'on sait ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est merveilleux. J'ai eu une conversation ce matin avec Lily. Et j'ai dit, vous savez Lily, je ne sais pas combien de jours, ou combien d'années, ou combien de mois je vais encore survivre. Je vais encore vivre. Mais parce que je pratique cela, je me dis à chaque matin, qu'est-ce qui vaudra la peine pour moi de faire aujourd'hui? Et vous savez comment je le mesure? Combien de personnes je peux toucher aujourd'hui? Combien de personnes je peux rencontrer aujourd'hui? Combien de personnes je peux aider à transformer aujourd'hui? Et si c'est une personne, je suis content. Si c'est 3 personnes, je suis 3 fois plus content. Si c'est 100 personnes, je suis encore 100 fois plus content. Et c'est ce qui m'anime. Et c'est comme ça que je veux passer le restant de ma vie. Aussi longtemps, tant et aussi longtemps que je peux le faire. Je vais m'exposer pour pouvoir recevoir et donner le plus que je peux. Parce que c'est mon héritage. Et j'ai beaucoup d'enfants. Et je vois ce que je transmets à chaque fois que je fais un Skype. Et ça me remplit de joie et de bonheur. Parce que je pratique les 5 remémorations. Et je sais qu'il n'y a rien de plus précieux que cela. Que cet enseignement que je peux partager. Parce que je sais aussi que ce que je peux partager, ce que vous allez recevoir, ce que vous avez reçu, ce que vous pouvez recevoir, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Vous allez aussi le transmettre à votre tour. Et c'est pour ça que chaque personne que je peux toucher peut être un conduit pour toucher 100 000 autres. Et c'est comme ça que nous pouvons transformer ce monde. Un jour à la fois, une action à la fois. Et mon maître porte ce nom, une action. Il n'a rien fait d'autre, une seule action. Il a touché des millions de personnes. Et ce n'est pas encore fini. Parce que dans 20 siècles d'ici, si cette terre n'a pas encore disparu, dans les annales du bouddhisme, Tenyakan sera mentionné. Et puis maintenant, il est déjà mentionné dans tous les livres de médecine. Un livre très simple, The Miracle of Mindfulness. Un petit livre d'une 30aine de pages qu'il a écrit dans les années 60. John Kabat-Zinn s'en est inspiré. Regardez ce qu'il a fait comme travail. Alors l'action que nous pouvons faire, chaque action que nous pouvons faire peut avoir des répercussions infinies. Ne sous-estimons pas ce que nous pouvons faire. Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire comme un médecin dans ce système. Le système paraît très gros, mais ce n'est qu'une formation. Et une fois qu'on a identifié comment cette formation est faite, il suffit de peu pour changer. Et le temps est venu parce qu'il y a beaucoup de jeunes médecins comme vous qui sont en train de le faire. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que cette avidité en avoir plus, 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 sans arrêt, va nous mener à notre fin. La fin de ce monde. Cette planète est en train de souffrir. Cette planète, on va la perdre si on continue de la façon dont on vit. Et c'est pour ça que chacun de nos façons, nous devons faire quelque chose pour la survie de cette planète, pour la survie de notre espèce. Et ça commence par l'arrêt. L'arrêt qui nous permet de pouvoir être là, de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Ce n'est pas en courant après le ver de terre qu'on va pouvoir le voir. Mais c'est quand on est arrêté. Et c'est ça notre pratique, la pratique de la pleine conscience, à chaque instant. une pratique que nous devons alimenter avec notre joie. Parce que si nous n'avons pas de joie, nous ne pourrons pas nous soutenir dans cette pratique. Et nous devons nous alimenter de ce carburant. Et hier, lorsque Julie a parlé de la valse ou de la danse, elle est une très bonne pratiquante pour pouvoir le faire. Si vous n'êtes pas aussi bonne que Julie, vous pouvez adopter une autre méthode. Et je l'ai appelée la méthode du serpent. Vous avez un beau jardin. Vous aimez vous y promener. Mais chaque fois que vous sortez, vous avez peur. Parce qu'il y a un serpent. Et c'est la même chose lorsque vous voulez rentrer dans votre cœur ou dans votre tréfonds, ou dans votre âme, ou dans votre esprit. Il y a ces choses-là dont vous avez peur. Et c'est pour ça que vous n'y allez jamais. Et c'est pour ça que ces serpents qui sont là prennent de plus en plus d'espace. Et plus ils en prennent, plus on a peur et moins on y va, et plus ils prolifèrent. Dans la pratique que je vous propose, c'est une fois que vous avez identifié un serpent, c'est de la sevrer. Je ne sais pas si c'est un bon mot. Mais un serpent doit s'alimenter de souris. Vous enlevez toutes les souris, le serpent va mourir. Alors dans le temps, quand j'étais plus jeune et que j'enseignais le serpent, elle me dit, prenez un gros, mettez-le par-dessus le serpent va être à l'intérieur, et vous le laissez là, vous allez jouer ailleurs. De temps en temps, vous revenez, puis là, vous l'entendez. Vous connaissez ce genre de hissing qu'un serpent peut faire? Puis ce débat, ok, je joue tout seul, moi je ne joue pas avec toi. Vous allez planter des choux, vous allez cultiver des tomates, vous allez vous occuper de vos fleurs, et vous revenez de temps en temps. Puis un jour, lorsque vous reviendrez, vous n'entendrez plus rien. Mais il peut faire semblant de ne rien dire. Je ne toucherai pas encore. Je laisse ça encore là. Puis une fois que je me suis bien nourri de toutes mes tomates et de tous mes concombres et de toutes mes patates et que je suis fort et costaud, en même temps, pendant ce temps-là, j'ai été voir aussi un maître kung-fu. Et là, je sais comment... Alors là, je n'ai plus peur du serpent. Mais je l'ouvre, puis le serpent est déjà mort. Alors c'est ça la méthode que je ferai. Parce que je suis chicken. Je ne veux pas m'amuser avec les serpents. Et donc les colères et toutes ces choses-là sont de nature organique et ont besoin d'alimentation et de nutriments. Et nous avons vécu de telle façon que nous les avons nourris, nous les avons entretenus, nous les avons renforcés. C'est pour ça qu'il nous mène la vie si difficile, si dure maintenant. Mais si nous pouvons identifier ces sources d'alimentation, tôt ou tard, ils vont dépérir. Donc pour vivre cela, qu'est-ce qu'on fait? On pratique les 5 entraînements à la pleine conscience. Et ça, c'est pour répondre à mon ami Lun, hier dans mon groupe, qui a sorti quelque chose de merveilleux. Il a dit, ah, je comprends, ce n'est pas contradictoire, mais vous nous forcez à faire des choses, puis d'un autre côté, vous dites qu'on est libre, et puis là, vous dites qu'on doit se être déterminé à, puis faire le vœu d'eux, puis tout ça. En pratiquant les 5 entraînements à la pleine conscience, nous coupons l'alimentation à toutes ces germes, à toutes ces sources, à tous ces serpents, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la haine, l'attachement, tout ça. Nous coupons leur alimentation. Et nous cultivons pendant ce temps-là l'amour, la compassion, etc. Il nous reste 15 minutes. Avez-vous des questions?
Je parlais de la colère. Et je disais que j'étais d'accord que plus on l'alimente, plus elle prend d'expansion et elle nous envahit et elle nous gâche la vie. Et vous disiez par ailleurs que si on l'identifie, qu'on en prend soin, on ne la refoule pas. Moi, j'ai un peu une difficulté parce que je pense que refouler la colère, vous dites on la refoule pas. J'ai un peu de difficulté de voir que si je l'exprime pas du tout ou que je la refoule pas. Et je trouve que de refouler, quand il y a une colère, c'est qu'il y a une raison. Hein? Et, il y a quelque chose d'un peu négatif de nier. En fait, je sais que, bon, j'essaie de voir si j'en prends soin, je vais voir les raisons. Et je crois que de prendre un peu de recul face à la colère, c'est, je le vois que c'est bien. Mais je me dis, il y a quelque chose qui manque pour moi. C'est-à-dire que c'est. Je trouve que c'est un peu nier les raisons. S'il y a aucune expression de ce qui me met en colère, il me semble que ça va revenir. Et alors, c'est ça que j'ai de la difficulté à voir que juste en l'identifiant, en la berçant, en identifiant les raisons, que je mets le couvercle dessus, mais quelque part, elle va ressortir ailleurs. C'est un peu comme en contradiction avec beaucoup d'autres théories de la psychologie qui disent que la colère, hein, faut quelque part qu'elle ait un exutoire. Si elle n'a pas d'exutoire, je ne sais pas, c'est ça un peu mon... Voilà. Mais en même temps que j'ai fait l'expérience récemment, justement, de me sentir en colère, de revenir de vacances, et j'ai besoin de temps avec mes étudiants pour faire la révision, mais on m'a organisé toutes sortes de réunions. Et là, ma première réaction, je suis vraiment fâchée et je ne me sens pas respectée. Et j'aurais le goût de rentrer dans le bureau de la directrice et de dire, écoutez, j'ai fait l'exercice. Je me suis dit, bon, cette personne-là, elle le fait pour telle, telle raison, etc. Je me sens pas respectée, je me sens fâchée. Je vais aller la voir. Je vais lui faire part, et là je me suis calmée, c'est vrai que ça m'a calmée immédiatement, et je vais lui faire part de ma frustration, et je vais lui demander un compromis. Et finalement ça a marché. Alors j'avoue que cette expérience-là m'a prouvé, dans ce cas-là, que c'était une bonne façon. Mais c'est pas toujours, en tout cas, j'ai une difficulté quand même.
Ce serait trop facile s'il n'y avait pas de difficulté. Alors, merci. Moi aussi, c'est très difficile. Et à chaque fois que je peux me rappeler de me calmer et de revenir à ma respiration, je pense que chaque fois, ça m'a sauvé la situation. Ça a sauvé ma vie. Parce que je sais que si je me fâche et que je crie après quelqu'un, puis que ce quelqu'un n'est pas content, surtout s'il est bâti comme ce jeune homme, j'aurais un problème. Et je pense que vous avez raison. J'ai dit à quelqu'un, et je ne sais pas à qui je l'ai dit, mais ce n'est pas parce qu'on est pratiquant qu'on devient paillasson. Et il y a une autre histoire que Lily s'en souvient très bien, c'est le dragon bouddhiste. Vous savez de quoi ça a l'air un dragon bouddhiste? Il a l'air stupide. Et on lui pile dessus. Et on lui tire les oreilles, et on lui donne des baffes, et on lui fourre des cailloux dans le nez. Parce qu'il pensait qu'être bouddhiste, c'est ne pas répliquer, de ne pas répondre. Et il en est presque mort, pour finalement comprendre que quand tu n'es pas encore dans un nuage, reste sur terre. Et quand tu es sur terre, il y a une chose qui est très importante. À se rappeler, c'est la vraie nature. Lorsque vous êtes pris avec la colère, vous n'êtes plus dans votre vraie nature. Mais votre vraie nature, c'est une personne. Une personne avec des limites. Une personne avec des limites et des caractéristiques spéciales et particulières qui font que vous êtes vous. Et parce que vous êtes vous, c'est vous faire reconnaître que vous êtes vous. Le dragon doit dire que tu sais, je t'aime beaucoup, mais tu dois me respecter aussi. Et tu ne peux pas me... C'est pas gentil. Mais Il y a beaucoup de façons de le dire. Et la façon dont vous l'avez fait, vous calmer avant d'aller voir l'autre personne pour lui dire ce que vous avez besoin, que l'autre fasse. Je ne sais pas si ça, ça a bien marché. Et dans notre pratique, il y a beaucoup d'enseignements que vous pourrez retrouver dans le livre qui s'appelle « Teachings on Love ». Et pour comprendre, mieux comprendre la colère et pratiquer avec la colère, il y a un autre livre, « La colère ». Et si vous êtes intéressé, nous pourrons organiser quelques retraites sur ce thème. Est-ce que vous voudrez vous charger de la logistique ? En fait, c'est ça la conversation que j'ai eue avec Lily ce matin. Quand je vais aux États-Unis, je pratique les cinq remémorations. Et je dis à mes amis qui sont là, « Tu sais, j'aime beaucoup passer mon temps à visiter les musées, à marcher dans les rues, et tout ça, parce que je peux le faire. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais sais-tu quoi ? J'ai aussi un travail, une mission, une conviction. Et c'est ça que j'aimerais beaucoup faire. Et si tu m'aimes, et si tu comprends ce que j'ai besoin, si tu comprends ce que je veux, aide-moi à le faire. Et c'est comme ça que j'établis mes calendriers. Vous voulez que j'aille à Las Vegas ? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Aller au casino ? Non, merci, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vous voulez que je donne une retraite ? Yes. Je vais y aller. Mais s'il vous plaît, ne m'amenez pas une retraite avec deux personnes. Et puis vous savez quoi? Je peux arriver quelques jours avant. Et c'est quelques jours avant. Est-ce que vous pensez pouvoir bien m'occuper? Et ils comprennent. Et c'est pour ça que chaque jour où je suis aux États-Unis, il n'y a aucun jour où je n'ai pas quelque chose à faire. Si ce n'est pas une visite dans une école pour enfants défavorisés, si ce n'est pas pour un asile de femmes violentées, chaque jour, je peux avoir jusqu'à 3 rencontres comme cela. Et à chaque fois, je sens que je fais quelque chose et que je pratique les 5 remémorations. Alors, je vais vous le demander aussi. Si c'est un thème qui vous intéresse, et c'est un thème qui peut être très intéressant pour beaucoup de monde, si vous voulez pratiquer avec moi des 5 remémorations, nous pouvons le faire ensemble. Aidez-moi à le faire. Aidez-nous à le faire. Elle a dit oui. Alors, j'ai profité de cette ouverture pour pouvoir lancer l'invitation à tout le monde. Si vous connaissez des places, des organisations, des associations, j'étais dans les universités, j'étais dans les écoles de médecine, j'étais dans les centres drug and alcohol addiction. Et ce que j'aime beaucoup faire maintenant, il y a 3 sujets. Self-care for healthcare professionals, mindful eating et violence. Donc, ce sont les 3 volets que j'aime beaucoup maintenant faire. Ça va pour le truc publicitaire? Ça, c'est Monique qui m'a demandé de faire ça. Et c'est l'heure. Yes. Sauvé par la cloche.